la prière est la relation de l'âme avec Dieu. Dieu est amour et l'amour est bonté qui s'offre elle-même. Une plénitude d'être qui ne reste pas enclose en elle-même, mais qui veut se communiquer, s'offrir aux autres et les combler de bonheur. Donc, vous voyez, la prière, c'est d'abord ce mouvement de Dieu qui veut se communiquer, qui a soif de se donner. Pourquoi ? Parce qu'il est amour, parce qu'il est bonté. Et c'est une sorte d'extase de Dieu, une plénitude, comme elle dit, qui ne reste pas enclose en elle-même, mais qui veut se communiquer. Magnifique ça. La générosité de Dieu, oui. Donc c'est d'abord ça, le mouvement de la prière, c'est d'abord un mouvement divin. C'est Dieu qui veut se donner à nous. C'est pas beau ça ? À cet amour de Dieu qui se donne lui-même avec largesse, toute la création est redevable de son existence. C'est-à-dire que le don même de Dieu, dans le lézard, le scarabée, la petite fleur, la montagne, enfin tout ce que vous voulez, cette largesse de Dieu fait être les créatures. Alors pour ceux qui sont familiers du Père Mario Eugène ou de Saint Thomas, c'est ce qu'on appelle la présence active d'immensité. C'est que Dieu est présent, vous voyez, voir la création comme un don de Dieu. Mais les plus élevés de toutes les créatures sont les êtres doués d'esprit qui peuvent accueillir l'amour de Dieu consciemment et lui répondre librement, les anges et les êtres humains. Alors, on va laisser tomber les anges et puis on va se focaliser sur nous. Voilà. Et voyez, le deuxième mouvement de la prière, c'est que c'est la réponse libre et consciente de l'homme à l'amour de Dieu. Et voyez le petit titre de la biographie qu'a donné Dichstein, « Amour pour amour ». Dieu m'aime, c'est le premier mouvement de la prière, « Je l'aime », c'est le deuxième mouvement. Regardez, ça, il faudrait le mettre sur le frontispice de tous nos oratoires, de toutes nos églises. « La prière est l'activité la plus haute dont l'esprit humain soit capable. » La prière est l'activité la plus haute dont l'esprit humain soit capable. Plus que de découvrir les secrets de l'univers, de battre des records sportifs, eh bien, l'acte le plus haut de l'homme, c'est la prière. Avec ce paradoxe, vous allez voir, ce n'est pas un acte accompli par l'être humain seulement. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul, on est deux. Et du coup, l'activité la plus haute va se transformer en la passivité la plus grande. La prière est une échelle de Jacob, ça c'est très très beau, la prière est une échelle de Jacob par laquelle l'esprit de l'homme va vers Dieu en s'élevant et la grâce de Dieu vers l'homme en descendant. Donc c'est vraiment la rencontre de deux amours, de deux mouvements, de deux élans, celui de Dieu, celui de l'homme, sur cette échelle de Jacob qui est la prière. Et puis après, dans la dernière phrase, elle va dire un peu tout le cheminement de cette oraison, hein, ce qui différencie les degrés de la prière. Vous voyez, comme il y a des degrés sur une échelle, il y a plusieurs barreaux. Donc voilà, donc comment on va grimper les barreaux différemment ? Eh bien, ce qui différencie les degrés de la prière est la mesure dans laquelle prédominent les forces naturelles de l'âme ou la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la prière, c'est en même temps mon activité avec tout ce que je suis, ma sensibilité, ma psychologie, mon imagination, mon intelligence, ma volonté, mes soucis, mes tracas, mes joies, enfin, tout ce que nous sommes, en fait, tout ce que nous vivons, tout ce que nous portons, supportons. Et puis, c'est aussi l'amour de Dieu qui se donne, c'est la grâce. Et donc, ce qui va différencier la profondeur de la prière pour Edith, c'est que, au fur et à mesure, la grâce de Dieu va prédominer sur nos forces naturelles. Là où l'âme n'est plus active par ses propres forces, mais devient seulement un réceptacle qui accueille en elle la grâce, là commence la vie mystique de la prière. Donc vous voyez, comme je disais, cette espèce de passivité, se laisser aimer, se laisser envahir par l'amour de Dieu, se laisser remplir de la grâce, de l'amour de Dieu, eh bien, ce qu'on appelle en d'autres termes la contemplation, eh bien, c'est le cœur de la prière, en fait. Alors, voyez, le chemin de la prière, pour Edith, hein, c'est un chemin intérieur qui va être adapté à chaque personne, à ses penchants, à ses tendances. C'est un voyage qui est tantôt lumineux et puis qui est tantôt nocturne. C'est une voie royale, la prière. C'est un chemin qui est parfois droit et aisé, ou qui parfois se transforme en sentier resserré, escarpé, qui peut couper le souffle, donner le vertige. L'expérience de la prière, pour Edith, c'est une expérience de présence et d'absence. Et cette alternance de présence et d'absence, de sentir et de non-ressenti, creuse justement en chacun de nous un au-delà du sentir. Donc c'est l'autre texte que je vous ai mis, toujours dans le tiré de la biographie d'Edith, enfin de Amour pour amour. C'est le cours habituel de la vie intérieure, hein, vous pourriez dire de la vie de prière, tel que l'expérimente la plupart des âmes recevant des grâces. Dieu les attire à lui en les faisant jouir de la joie surnaturelle de sa présence qui comble de bonheur. Hein, on a tous fait l'expérience d'une joie profonde, peut-être une conversion ou un jour à l'Eucharistie ou une veillée de prière ou dans un train ou le Dieu il nous a saisis, une joie profonde qui nous a envahis. On a senti la présence de Dieu, quelque chose qui nous a mis le cœur en joie. Vous voyez, attirance de Dieu. Dieu nous a attirés. Il n'est pas fou, Dieu. Mais il met ensuite à l'épreuve leur fidélité en leur retirant toutes ces joies et en les faisant languir dans la sécheresse. Donc, vous voyez, Dieu, il joue un peu à cache-cache, voyez, entre notre ressenti, et puis après, hop, il va nous faire rentrer dans la sécheresse, comme si Dieu se retirait pour éprouver notre fidélité et notre liberté, finalement, notre responsabilité. Pourquoi? Parce que vous savez que le grand danger de la vie de prière, c'est d'aimer les dons de Dieu plus que Dieu lui-même. Or, Dieu, il veut être aimé pour lui-même, parce qu'il nous aime pour ce que nous sommes. L'amour est un échange de deux, la prière est un échange de deux amours, comme disait Edith. Amour pour amour. Alors il nous connaît et alors il va nous travailler, nous malaxer, vous voyez, comme on travaille comme le bois travaille. Et voilà ce qu'il dit. C'est encourageant pour nous. Il dit, pendant 14 ans, Thérèse d'Avila a enduré de tels combats sans jamais fléchir dans sa fidélité. Alors pourquoi il y a ce phénomène? Ben c'est très important en fait, parce qu'il faut comprendre que Dieu, il est au-delà de tout sentiment, Dieu est au-delà de tout concept, hein, et de toute prise que l'on pourrait avoir sur lui. Et donc, la rencontre avec lui, ultimement, ne peut se faire que dans une remise de tout nous-mêmes, de tout notre être. Ce que Edith appelle une remise de soi. Donc, voyez, l'absence de sentiments, l'absence de compréhension, etc., en fait, c'est le moment de se donner à Dieu. Et comme Dieu se donne, en fait, il y a rencontre. Il y a présence. Et du coup, pour Édith, lorsque cette rencontre n'est plus limitée dans le temps, vous voyez, on retrouve Jésus, hein, qui était constamment, bon, mais lui, parce qu'il était le Fils de Dieu, dans ce dialogue avec son Père. Il y a un moment pour Édith où cette rencontre, elle est plus limitée dans le temps, hein, mais elle correspond à un état stable d'abandon de soi à Dieu. Et c'est ce qu'elle appelle, elle, l'union ou le mariage spirituel. Elle reprend une expression de Thérèse d'Avila, vous savez, hein, le mariage spirituel. Mais, et je trouve que c'est très beau ce que montre Edith, c'est qu'elle le moderne, enfin, elle modernise pas, mais elle l'explicite d'une autre manière, en disant, ben, d'une certaine manière, quand il y a cet état permanent de dialogue avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'on le sent, vous voyez, mais il y a quelque chose quand même de stable dans la relation, vous voyez, comme une amitié, un amour qui se fidélise. Eh bien, pour elle, voilà, ça arrive à une sorte d'union, de mariage spirituel. Si vous voulez, elle dit, c'est une fusion, ben, ce n'est pas une fusion, pardon, dans la confusion, mais c'est une union de deux libertés. Et vous voyez bien la sécheresse dans l'oraison, la difficulté qu'on a, vous voyez, mais la fidélité à tenir dans la vie d'oraison, ben, en fait, c'est pour aiguiser notre liberté, c'est pour nous rendre vraiment libres. Puisque la liberté, mais ça on le reverra plus tard, ultimement, l'acte de la liberté, c'est de s'en remettre totalement à Dieu. Alors, ce mouvement d'amitié avec Dieu, de rencontre dans la prière, pour Edith Stein, ça va aussi avec un mouvement d'unification de notre personne. Pourquoi? Parce que je vais être constamment présent, elle dit, la personne va être constamment présente au plus profond d'elle-même, en ce centre vital où Dieu réside, hein, puisqu'elle est en dialogue avec Dieu. Et du coup, vous voyez, bah, l'action qu'elle peut avoir, mon cours de maths, mes patients à l'hôpital, ma cathédrale à Dijon, toutes nos activités que nous faisons, ne nous détournent pas, ne nous distraient plus de Dieu. Et du coup, vous voyez, la contemplation, dit-elle, n'implique plus ou n'implique pas le désengagement de l'agir. Au contraire, même. Alors là, bien sûr, nous contemplons les sommets, et nous, on a peut-être l'impression qu'on est au bas de la montagne, ou même qu'on est toujours en train de creuser un trou. Mais je crois que c'est bon de voir le sommet auquel nous sommes chacun de nous appelés. Parce que ça nous dynamise. Du coup, vous voyez, l'oraison, la prière pour Edith Stein, c'est un voyage intérieur. Alors, je reprends l'image que j'avais déjà un peu traitée l'année dernière, mais j'ai trouvé mieux. Pour Edith, hein, si on veut illustrer notre âme, donc c'est-à-dire c'est la partie la plus profonde de notre être, représentez-vous une étoile. Une belle étoile qu'il y a dans le ciel, Alpha du Centaure, par exemple. Je pense que c'est une étoile, Alpha du Centaure. Ouais. Voilà. Et une étoile, il y a toujours un cœur. Il y a le cœur de l'étoile, il y a un centre de cette étoile. Et ce centre, ce cœur, c'est le lieu où Dieu réside comme une source d'énergie. Voyez, c'est de là que vient toute l'énergie pour l'étoile. Voyez, voilà. C'est une sorte de lumière irradiante. Le Père Marogène, il dirait un soleil, hein, toujours, toujours lumineux, ou une source toujours. Alors, dans cet espace intérieur, il y a ce qu'Edith appelle le je, J-E. Le Père Gilles, Maud, Alban, etc. Et le je, c'est une sorte de point libre, hein, qui est libre de se promener de la périphérie de l'étoile, hein, jusqu'aux extrémités des branches de l'étoile, au centre. Et vous voyez, c'est un jeu qui est lié à sa liberté. En fait, c'est où est-ce que tu veux être? Voilà. Adam, où es-tu? Edition, elle reprend cette expression. Voyez, c'est où est-ce que je vis? D'où est-ce que je vis? Du centre le plus profond de moi-même, c'est-à-dire là où Dieu réside, de cette lumière irradiante, ou aux extrémités de mon être, dans la superficie, voyez, dans la banlieue de mon être, où là on va retrouver le behaviorisme, voyez, l'agir irréfléchi, voyez, dans ma vie. Alors dit, si mon je reste dans la partie la plus externe, eh bien je ne vais presque plus rien percevoir de cette lumière centrale. En fait, voyez, je m'absente de Dieu. Je vais dans la région de la dissimilitude. C'est comment il dit Augustin, c'est ça. Voilà. Pourquoi? En raison des zones opaques intermédiaires. Vous voyez, parce que on sent bien que quand on essaye de faire oraison, il y a en nous tout un monde de tendances, de bruit, de facultés, parce qu'on est un être sensible, psychologique. Il y a ma volonté, mon intelligence. Il y a beaucoup de choses en moi. Vous voyez. Mais lorsque par la prière, par ce voyage intérieur, hein, le je, c'est-à-dire je décide de pénétrer dans la profondeur de mon âme, alors au fur et à mesure, je vais découvrir un espace insoupçonné. Et puis je vais explorer les différentes zones de mon âme, je vais percevoir des distinctions dans mon intérieur, si vous voulez. Ce que Thérèse en fait appelait les demeures. Demeure du château. Donc, vous voyez, progressivement, par un effort de ma liberté, conjointe hein, au don gratuit de Dieu, eh bien, le je que je suis vraiment va se frayer un chemin vers le centre où Dieu est. Et ça, c'est l'oraison, et ça, c'est la vie de prière. Et du coup, je vais laisser la lumière divine éclairer et aussi purifier toutes les zones de mon être, jusqu'au plus extérieur. Si je décide de rejoindre Dieu, ce centre lumineux, et bien cette lumière, elle va irradier dans mon être. Et bien sûr, elle va y faire une œuvre de transformation, parce que je suis un être blessé à cause du péché. Il y a des choses tordues en moi. Il y a des zones d'obscurité, d'ombre, vous voyez. Mais Dieu, il va travailler tout ça. Et donc, je vais pouvoir me mouvoir librement, vous voyez, dans toutes ces zones de mon être, parce qu'on vit pas toujours, vous voyez, quand on achète un croissant, on l'achète pas forcément de la zone la plus profonde de notre être, vous voyez, on réfléchit pas 150 ans pour savoir quel croissant, si on va prendre un croissant, un pain au chocolat, etc. Donc le jeu il bouge, c'est normal, voyez, et puis des fois je suis dans l'imagination, et puis des fois il faut utiliser mon imagination, et puis des fois c'est mon intelligence, et puis des fois c'est plus profond, mais je vais pouvoir être plus libre, et puis j'y serai toujours avec cette lumière irradiante de Dieu. Et donc petit à petit toute ma personne, si vous voulez, va flamboyer sous l'effet de la présence divine. Et c'est ça qui fait que je vais rayonner aussi sur les autres, hein, de cette surabondance que je reçois de l'amour de Dieu, en fait. Mais que je reçois du plus intime de moi-même. C'est ça. Et du coup, j'ai pas allé le chercher, vous voyez, dans l'extérieur. Et d'une certaine manière, à utiliser les autres, ou les choses, ou les objets, pour moi. Mais je rentre dans un rapport beaucoup plus libre avec les personnes, les choses. Alors, encore une fois, hein, chacun est unique. Unique est l'histoire de chacun de nous. Et donc, unique sera la manière dont Dieu va nous conquérir. Il est vivant. Celui devant lequel je me tiens. Hein, je vous ai dit, c'est la devise d'Élie. Eh bien, ce Dieu qui est vivant, il est unique pour chacun de nous, il est imprévisible par rapport à chacun de nous, et il se répète jamais. Un autre point, j'ai presque fini, ça va? Oh là, marche, ouais. Je laisserai le reste pour la prochaine fois. Un autre point aussi que développe Edith, j'ai pas trop le temps, mais cette recherche de l'union avec Dieu, c'est cette vie de prière, cette union avec Dieu, cette transformation avec Dieu, de Dieu, par Dieu, ne nous rend ni insensibles, ni impassibles. Par contre, cette relation avec Dieu, elle va me rendre, alors c'est un paradoxe, mais il faut toujours tenir les paradoxes dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, elle va me rendre plus vulnérable, mais plus fort aussi, grâce à cette source surabondante, hein, d'amour et de pardon que Dieu diffuse en moi. C'est ça, cette lumière irradiante et purifiante, en fait, c'est l'amour et le pardon de Dieu. Et donc, du coup, vous voyez, la vie de prière, l'union à Dieu ne me rend pas insensible et impassible, au contraire, elle me rend beaucoup plus vulnérable aux soucis, vous voyez, aux détresses du temps, aux autres, à ce qu'ils vivent, mais aussi beaucoup plus fort, parce que ben, j'ai l'amour de Dieu et j'ai la force de son pardon. Ce que veut nous dire Edith, vous voyez, c'est que la vie de prière, la vie mystique, la vie n'est pas une vie aseptisée, ni euphorique. Vous voyez, si on a une vie authentique d'oraison, de prière, ça va pas aseptiser nos vies et ça va pas nous faire vivre toujours sur un mode du 220 volts, vous voyez, euphorisé, enfin comment dire, euphorisant. Par contre, elle va être l'œuvre de l'Esprit Saint, qui va nous faire tenir ce que nous avons tendance à supprimer, voyez, ou à séparer, ou disons à choisir. En fait, je me disais en relisant Edith, enfin en lisant ces textes, et puis en relisant aussi Père Marie-Eugène, on est tous des hérétiques. Vous savez, hérésie, hein, ça veut dire choix en grec. Donc les hérétiques, c'est toujours des gens qui ont fait un choix. C'est-à-dire, bah, Jésus, il est Dieu, mais s'il est Dieu, donc il peut pas être homme. Ou alors à l'inverse, vous avez eu, ben Jésus, s'il est homme, il peut pas être Dieu. Vous voyez, c'est une hérésie, c'est un choix. Ben nous, on est pareil, vous voyez. Mais dans la vie de prière, petit à petit, l'Esprit Saint, cette lumière irradiante, etc., va nous enlever cette tentation hérétique. Vous voyez. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours tenté de faire un choix entre action et contemplation, entre silence et parole, entre louange et intercession, entre détachement et engagement. Eh bien, la sagesse divine, elle est un mystère insondable qui a la forme de la croix et qui va toujours nous faire tenir ces polarités. Et on voit bien les saints sur les sommets, eh bien, il n'y a plus d'hérésie chez eux. Il n'y a pas la contemplation ou l'action, ils gardent la polarité. C'est pas le silence ou la parole, les deux y sont. Engagement et détachement, les deux y sont. Du coup, le sommet de la vie chrétienne, fruit de la prière, eh bien, réside dans la simplicité d'une vie qui demeure en présence du Seigneur et qu'il aime de tout son cœur. Vous voyez, on se fait des nœuds dans la tête. Et en fait, c'est tout simple, la vie chrétienne. C'est simplicité d'une vie qui demeure en présence du Seigneur, qu'il aime de tout son cœur et qui va aimer son prochain. Bon, mais alors pour y arriver, vous savez que la simplicité, c'est pas facile. Alors, je vous ai mis cette belle lettre, un beau passage d'une lettre dédiée à Elisabeth Darcy. Et je m'arrêterai là. Je garde le reste pour la prochaine fois. Je crois qu'il en va pratiquement ainsi. À partir du moment où l'on ne cherche plus rien d'autre que l'union avec Dieu et qu'on se laisse vraiment guider en tout par l'Esprit Saint, le désir de stimulation cesse vite Oui, stimulation et tous ces trucs qu'on essaye de chercher à droite, à gauche et tout. Le sentiment, le ressenti, vous mettez sous le mot stimulation tout ce qui peut vous parler. Le désir de stimulation cesse vite et fait place au repos et à la simplicité. Maintenir l'union au Christ doit être ton souci principal. Alors vous allez voir comment Edith est consolante. Hein. Qu'il n'est pas si facile de ne regarder ni à gauche ni à droite, je le sais aussi fort bien d'expérience. Vous voyez, toutes les distractions, tout ce que je vous dis, ça ne va pas arrêter les distractions dans la vie de prière, etc. Hein. Donc on va toujours regarder à droite, à gauche, chercher un petit truc, machin. Vous pourrez relire dans le manuscrit B de Thérèse comment elle décrit son oraison à l'aide du petit oiseau, là, qui va chercher des brindilles, qui va se mettre les ailes dans l'eau, etc. Mais si l'on a saisi, quelle est notre tâche? Et si nous cherchons sans cesse à remaner notre regard en cette direction, comme l'aiguille du compas, c'est déjà beaucoup. Vous voyez? Refixer notre regard, se faire un petit acte de foi sur la présence de Dieu. Nous devons avant tout demander que le Seigneur nous libère, car nous pouvons si peu par nous-mêmes. La connaissance et l'ascèse qu'infuse l'Esprit Saint n'ont certainement rien à voir avec s'occuper de son moi. Oui, ça c'est beau ça, ce qu'elle dit. Vous voyez, souvent, des fois, la connaissance comme une introspection ou l'ascèse comme, ben voilà, vous voyez, comme les jogging ou s'occuper de son corps là, à force de vouloir avoir une taille de guêpe, etc., ou un corps bodybuildé pour les mecs. Il y a une sorte d'ascèse en fait qui est orgueilleuse, où je veux être le propre sculpteur de mon existence. Edith, elle dit non, non, attention, la connaissance et l'ascèse hein, que vont nous donner l'Esprit Saint, ça n'a rien à voir avec s'occuper de son moi, oui. Mais ça va être quoi? Acquiescer à notre propre impuissance et pauvreté. Et nous abandonner avec d'autant plus de confiance à l'amour tout-puissant. C'est la grande sagesse que nous devons sans cesse pénétrer à nouveau et toujours plus profondément.